France Culture.
Et on passe à notre coup de cœur, Charles Bosson, pour un livre.
Ah oui, il s'agit du livre Billy Wilder, un Européen à Hollywood, qui vient de paraître chez Capricci, signé Marc Cerisuello, critique au magazine Positif et spécialiste de la comédie américaine hollywoodienne. Alors le livre s'ouvre par une citation du réalisateur de Certains l'aiment chaud et de La garçonnière qui dit ceci « Le monde se partage entre optimistes et pessimistes. Les premiers ont été gazés, les seconds ont une villa à Beverly Hills. » Car Billy Wilder, né Samuel Wilder en 1906 dans une petite ville de Galicie, ancien sujet de l'empereur d'Autriche François-Joseph, est un des premiers à avoir découvert en 1945 les images de la libération des camps nazis, où il a lui-même perdu presque toute sa famille. « On est pris de vertige, dit l'auteur, quand on réalise qu'un des hommes les plus drôles du XXe siècle a été un des premiers à découvrir les images des camps de la mort. » Alors il y a cette dualité dans le cinéma de Billy Wilder, cette légèreté insouciante, sophistiquée, virevoltante qui lui vient en partie de ses premiers mentors, Ernst Lubitsch et Mitchell Leisen, et cette gravité qui lui inspire Assurance sur la mort, un des premiers films noirs, et le sublime Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard en 1950, raconté par un cadavre qui flotte dans la piscine d'une villa de stars, un film qui plaît évidemment à Kleber Mendonça sa philo et qui a influencé entre autres le sublime Mulholland Drive de David Lynch. En un véritable tour de force critique, l'auteur s'offre une valse avec le cinéaste et ses 26 films dans un livre de 250 pages qui progresse en spirale et qui offre des vues d'ensemble et des coupes analytiques dans le corps des films, remède puissant aux habituelles monographies chronologiques. Le livre rend aussi hommage aux actrices et aux acteurs qui ont été de véritables guides pour le cinéaste, en particulier Marilyn Monroe qui lui offre son génie et une image mythique, celle de la jupe volante au-dessus de la grille du métro de New York dans 7 ans de réflexion, image qui a marqué nos inconscients collectifs, et puis son Stradivarius, sa muse, Jack Lemmon, qui en 7 films est venu éclairer et tempérer le cynisme et la mélancolie incurable du cinéaste par son humanité profonde. Une célébration critique de Billy Wilder qui procure autant de plaisir que la vision de ses films. À mettre d'urgence donc sous vos sapins.
Billy Wilder, un Européen à Hollywood de Marc Cerisuello, disponible chez Capricci.
This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain.
Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Iwa n'en a eu que faire.
Vous avez sans doute reconnu l'ambiance d'Avatar de James Cameron 3 ans après le deuxième volet. Voici donc le numéro 3 d'une série qui en comptera 5 à coup sûr, c'est en tout cas ce que dit le réalisateur, et même peut-être 7. Mais bon, concentrons-nous sur ces 192 spectaculaires minutes tournées en capture d'interprétation. On retrouve la planète Pandora, le peuple Navi à la peau bleue, mais une nouvelle tribu fait son apparition qui choisit de s'allier aux envahisseurs terriens pour attaquer ses voisins. De feu et de cendres, c'est le sous-titre de ce 3e épisode. Beaucoup plus sombre que les précédents, on commence avec quelques mots d'abord, Charles Bosson.
Oh ben c'est une grande déception, moi j'ai grandi un peu avec les films de James Cameron, chaque film était un peu une fête à sa façon, changeait d'univers, réinventait certains codes comme ça du blockbuster et du cinéma de genre, et là je me suis ennuyé prodigieusement, je crois que j'ai regardé ma montre 237 fois.
Guillaume Aurignac.
Mais en 3D.
C'est parce qu'il n'arrivait pas à lire l'heure, en fait, c'est ça le truc.
Oui, non, mais c'est un film dont la puissance économique, technologique, spectaculaire, en fait, ne manifeste qu'une seule chose, c'est l'impuissance artistique de son auteur. On s'y ennuie beaucoup. J'ai l'impression que son imaginaire est complètement paralysé par cette espèce d'obsession à vouloir faire sa saga, la terminer. On voudrait qu'il en sorte le plus tôt possible.
Charles Bosson, vous ne sauvez rien, il n'y a rien de nouveau là ?
Alors, au départ, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où on comprend, c'est-à-dire qu'on est embarqué de manière hyper réaliste dans un univers complètement créé de toutes pièces, qu'on connaît, qui est l'univers, puis qui est d'une certaine manière le contre, la réponse au nouvel Hollywood, c'est-à-dire c'est un univers de refuge, c'est un univers de spectacle. Après, ce qui est décevant, c'est que Cameron a fait partie d'une génération avec John McTiernan ou Paul Verhoeven, de gens qui avaient quand même détourné ces codes du blockbuster, le blockbuster blockbuster, c'est un mot militaire qui veut vraiment dire exploser la tête des spectateurs et puis se remplir les poches. Et ils avaient réussi quand même à faire des films. Cameron filmait toujours le groupe. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un... Le cinéma des années 80 et 90 a vraiment fait le vide autour des héros, ce que Danet appelait le cinéma post-publicitaire. Lui a toujours filmé l'équipe, le travail ensemble. On retrouve un peu de ça dans Avatar. Et d'ailleurs, lui-même ouvre le film comme s'il avait besoin de prêcher la bonne parole pour nous dire ça a l'air d'être fait par de l'IA et d'être faux, mais tout est réel et on célèbre les performances des acteurs. En gros, il a besoin de nous montrer qu'il y a une forme de réalité derrière tout ce masque et tout ce voile. Et en fait, je crois que c'est ce monde un peu utopique qu'il a inventé, pour moi, ne raccorde plus avec aucune émotion contemporaine. Je trouve que c'est quelqu'un qui, de plus en plus, alors on reparlera peut-être du premier, qui était beaucoup plus intéressant et stimulant. Je trouve qu'aujourd'hui, ces émotions avec lesquelles le film nous propose de connecter, en fait, j'en vois que deux. C'est une forme de béatitude devant la beauté de Mère Nature, mais qui est en fait fait par Papa, qui est fait par Cameron. Et de l'autre, une sorte de pitié devant la souffrance infligée à des peuples autochtones, ou à des personnages faibles, entre guillemets, ou qui n'ont pas les moyens de se défendre. Donc voilà, pitié, pathos, on est toujours comme ça, baladé d'une grande émotion à l'autre. Et en fait, ça s'épuise. Moi, je ne ressens absolument rien devant un film comme celui-là. Je vois les pauvres Kate Winslet et, qui revient comme ça de Titanic, enfin, comme ça, des fantômes du cinéma passé de Sigourney Weaver, qui sont nimbés d'une espèce de voile numérique et qui ont l'air d'être complètement perdus dans ce film. Et en fait, je trouve qu'il lui manque aussi tout simplement un corps. Je pense que Schwarzenegger a travaillé avec tous ces grands auteurs des années 90 et c'est quelqu'un qui était à sa façon une sorte de véhicule critique absolument dément. C'est-à-dire qu'en fait, il débordait le programme d'aventure qu'on essayait de lui mettre sur le dos. Et je trouve que c'est ça qui manque cruellement, c'est du corps, en fait, dans Avatar.
Guillaume Aurignac.
Oui, alors moi, je trouve que c'est un film qui bégaye énormément, qui est beaucoup dans la répétition du même motif, et probablement parce qu'il ne veut pas résoudre les contradictions internes du cinéma de Cameron. Alors, ce qui bégaye, la répétition, c'est le motif qui revient constamment du siège et de la fuite. Voilà, on est constamment dans ce motif-là, qui est un motif de western, parce qu'évidemment, Avatar, c'est un western de science-fiction, en fait. Et on sent que Cameron, depuis le début, veut faire une sorte de western révisionniste à l'heure du numérique, à l'heure des artefacts numériques, c'est-à-dire western révisionniste, c'est-à-dire le western qui dit que derrière le spectacle de la conquête de l'Ouest, il y avait un génocide des communautés indiennes. Et donc, pour s'absoudre de ce péché constitutif de la nation américaine, il faut que le héros américain devienne un Indien. C'est ça le principe du western révisionniste et qu'il reprend vraiment de manière obsessionnelle dans tous ces épisodes d'Avatar. Et là, j'ai l'impression qu'il n'en sort pas. Alors, tout ce qu'il fait, c'est amplifier ce motif du siège et de la fuite. Il va l'amplifier constamment et il va le changer de décor. C'est-à-dire, ça va être une scène urbaine, une scène dans la forêt, une scène aquatique. Mais c'est toujours le même motif. Alors, il a beau l'amplifier, et en fait, ça montre juste la stérilité de son imaginaire, qui est un imaginaire qui est lié au New Age. Donc, le New Age, c'est quand même les années 60 du siècle précédent. Il est vraiment bloqué dans cet imaginaire-là. Et on sent qu'il veut juste accomplir technologiquement ce que cet imaginaire-là lui a promis. Sauf que je crois qu'on est passé à autre chose. Le cinéma est passé à autre chose, le monde est passé à autre chose. Pas James Cameron, c'est un véritable problème à mon sens, d'autant plus que son film ne résout pas la question interne de son cinéma, qui est un cinéma d'ingénieur, un cinéma technologique, et qui en même temps qui a des rêves écologiques. Et il faut quand même savoir qu'Avatar, c'est quand même quelqu'un qui un cinéma qui vante la forêt, qui vante la nature, mais qui le vante en consommant des tonnes de silicium. Voilà, c'est vraiment un vrai problème. Et finalement, il y a quelque chose qui, moi, a été frappant. À un moment, il y a une scène où je me suis réveillé dans Avatar. C'est une scène où il y a une piqûre qui est faite dans un bras humain. Et là, je me suis dit, d'un seul coup, c'est le surgissement du réel dans cette espèce d'artefact numérique, de ces images complètement recréées. Et ce surgissement du réel vient avec la technologie, avec une aiguille dans un bras humain. C'est-à-dire que le réel, au fond, libidinalement, pour le cinéaste Cameron, c'est la technologie.
Et les armes.
Voilà, c'est les armes, c'est ça le réel. Et qu'en fait, la nature, c'est la recréation, c'est l'artefact, c'est le numérique. Donc, il a renversé ce rapport-là, alors qu'il vante ce retour à la nature, à Gaïa, voilà, l'interconnexion des êtres entre eux. Alors, autre chose sur l'interconnexion des êtres entre eux, la question politique qu'il met en scène, Charles faisait remarquer qu'il avait effectivement filmé des groupes Mais là, en fait, il filme des héros. Mmh. Il contribue à persister dans cette espèce de narration américaine du héros américain, du grand homme américain, alors qu'il ne cesse pas de vanter la question des holistiques, des communautés, de la société où tout le monde se regroupe de manière solidaire. Et donc, il y a un vrai problème contradictoire technologique, problème contradictoire politique. Et moi, je vois ça par rapport à une série en ce moment de Vince Gilligan qui s'appelle Pluribus. Oui. Et qui parle justement de la hantise américaine des sociétés holistiques, de la défense, vraiment rétractation sur la question de l'individualité. Et lui ne se méprend pas. Il voit bien que la société américaine est terrifié par les sociétés solidaires, les sociétés holistiques, alors que Cameron fait qu'il vende ça, mais en fait à travers une défense du héros américain.
Oui. Charles Bosson, il y a aussi la question qui lui avait été reprochée sur le deuxième Avatar, de ce modèle patriarcal, quand Guillaume disait qu'on était passé à autre chose, effectivement là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'il en est dans le troisième?
En fait, dans toutes les interviews qu'on voit de Cameron aujourd'hui, les journalistes, je pense qu'ils le demandent, ont à cœur de lui rappeler à quel point il a été féministe, entre guillemets, mettant en scène de grandes héroïnes, ce qui est vrai. On pense à Alien, on pense à Terminator 2, Linda Hamilton, qui d'ailleurs, Linda Hamilton revient dans Stranger Things, qui est un peu notre avatar du moment. Moi, c'est le plaisir que je cherchais dans Avatar, je l'ai trouvé dans la dernière saison de Stranger Things. Le cinéma de Cameron aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Penn n'arrive plus à produire des corps féminins et des héroïnes. Le personnage joué par Una Chaplin, qui est un peu la nouvelle schtroumpf rouge du nouveau Avatar, aurait pu incarner cette dimension, une forme de rébellion justement face à ces sociétés, à ces idéaux. Mais en fait, le personnage n'est capable de connecter qu'avec d'autres femmes. Ça, c'est vraiment un truc extrêmement étonnant de la part de Cameron. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes se battent entre eux, les enfants se battent entre eux, et les femmes connectent. Alors, on l'appelle sorcière, on est vraiment sur des choses complètement du passé. Et tout l'enjeu d'Avatar 3, c'est quand même terrible, c'est 3h17 pour en arriver là, c'est l'histoire d'un fils qui doit choisir entre ses deux papas, c'est-à-dire le père d'élection et le père biologique. C'est plié au bout de 2 minutes de récit. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, en fait? On le regarde justement essayer de se dépêtrer avec cette image du héros américain, de la famille, qui pour lui est quand même un refuge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le refuge qui est véhiculé d'épisode en épisode. C'est qu'en fait, il faut se replier dans la communauté, dans la famille, et que le père, même si ce n'est pas un très bon guide, est malgré tout le seul qui nous reste. Et alors là, encore une fois, il y a un film qui vient de sortir, qui s'appelle L'amour qui nous reste, qui est un film islandais, j'ai dit sûrement très mal son nom, de Linur Palmason, et qui lui, justement, montre ce que c'est qu'une famille dont le père a été légèrement éjecté de l'équation, et comment le père revendique un petit peu, essaye de revenir dans ce cocon ou dans ce noyau-là. Et pour moi, c'est tout ce qui est raté justement dans Avatar, c'est d'avoir montré un petit peu ce qu'on appelle patriarcat, mais justement aussi ce héros américain en crise.
Guillaume Aurignac, un dernier mot?
Oui, c'est très intéressant ce que dit Charles sur la question effectivement du genre, parce que c'était très visible dans Avatar 1 que donc cette espèce de nourrie de philosophie New Age, il y avait l'idée de la non-binarité. La non-binarité, pour lui, ça se transformait par l'idée qu'on pouvait passer d'un corps à un autre, qu'on pouvait changer de corps. Sauf que ce qu'on voit dans Avatar 3, c'est qu'effectivement ce changement de corps, cette non-binarité, ça passe que par des artefacts numériques, et qu'en fait au fond de Cameron, il y a un boomer qui continue à constituer le héros américain, la distinction de genre, voilà.
Merci beaucoup, c'était Avatar de feu et de sang de James Cameron en salle aujourd'hui, et je précise que le réalisateur brésilien Kleber Mendoza Filho sera l'invité d'Antoine Guillot samedi à 13h30 dans Plan Large. Charles Bosson, Guillaume Aurignac, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture, à très bientôt. Et vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée, et pour ce faire vous pouvez consulter les références des ouvrages dont nous avons parlé et des deux films sur la page des Midi de Culture, évidemment. Restez avec nous.